Bonjour à chacun, à chacune, que vraiment sa grâce et sa paix soient dans nos cœurs ce matin. La grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été dit dans prière, c'est aujourd'hui, pour revenir sur l'histoire, mais nous célébrons, je crois que tu peux dire, nous célébrons ce temps particulier dans la vie de l'Église, du fondement de l'Église, de la fondation de l'Église, conformément à la parole de Jésus qui avait dit « Je bâtirai mon Église ». Et nous savons que cette Église, elle a été fondée, elle a été démarrée à la Pentecôte. C'est vrai que ce jour de Pentecôte, c'est une occasion de glorifier le Seigneur pour son plan merveilleux. Il le déroule sous nos yeux. Et nous qui vivons aujourd'hui dans ce que la Bible appelle les derniers temps, ou les temps de la fin, ils durent depuis un moment, mais nous sommes dans ces derniers temps, ils ont clairement commencé à la Pentecôte, c'est les temps de la fin. Eh bien nous vivons dans ce temps où nous connaissons Jésus-Christ, et nous cherchons à mieux le connaître, comme Daniel l'a rappelé dans la prière à l'instant, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés, et ce nom... Jésus-Christ, nous le connaissons aujourd'hui non selon la chair, comme dit Paul, mais selon l'Esprit. Jésus-Christ n'est plus là, sur cette terre, mais il est présent. Nous le rappelons, nous avons vécu mardi dernier un moment particulier, je crois. Enfin, en tout cas, personnellement, il y avait vraiment la présence, et je crois qu'il y avait la présence, parce que le nom de Jésus est prononcé et acclamé. C'est lui qui a été fait Seigneur, ça nous a été aussi rappelé dans ce texte de Philippiens. Je crois qu'il faut nous restions centrés sur cela. Le christianisme, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est Jésus-Christ glorifié, c'est Jésus-Christ qui règne, celui qui a été fait Seigneur. Et ceci, c'est par révélation. C'est par révélation que nous avons connu qui est Jésus-Christ, qui nous sommes, notre situation sans lui, son amour, sa miséricorde, sa résurrection, c'est par révélation que nous avons l'assurance qu'il est vivant, qu'il intercède pour nous sans cesse auprès du Père et qu'il revient pour régner sur cette terre avant de tout remettre à son Père, qui sera alors tout en tous. Voilà ce qui est au cœur de notre foi. Je crois que tout à l'heure, dans le texte qui a été lu de Philippiens, Paul va dire... Je vous rappelle souvent les mêmes choses et je crois que c'est nécessaire parce que ces choses sont des choses spirituelles que nos yeux ne voient pas, nos yeux physiques ne voient pas, nos yeux physiques reçoivent et entendent et les oreilles entendent beaucoup de choses, mais là c'est des choses spirituelles qui sont connues par révélation. Et la révélation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ce matin... Le titre de mon message, ce sera « Un esprit de force, d'amour et de sagesse ». Vous savez, cette exhortation que Paul va adresser à Timothée. Nous ne lirons pas ce texte-là, mais je crois que c'est bien ce qui s'est passé à la Pentecôte. Un esprit de force, d'amour et de sagesse est venu, est survenu. Vous notez d'ailleurs qu'il n'est pas venu parce qu'on a invoqué le Saint-Esprit, mais il est venu parce que dans sa souveraineté, Dieu... satisfait de l'œuvre de son Fils, de cet homme parfait, Jésus-Christ à la croix, après que tout ait été accompli, y compris la résurrection, parce que nous le dirons, les liens de la mort ne pouvaient le retenir, le Père, satisfait, a décidé dans sa souveraineté et en son temps de demander au Fils de répandre le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que l'Église est née, et c'est ainsi qu'elle poursuit son œuvre et qu'elle se développe jusqu'au retour de son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je voudrais qu'on regarde plusieurs choses. Je vous dis un peu le plan. Encore un mot sur cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Il me venait ce matin, nous prions avec Marie-Annick, et je me dis, tiens, c'est curieux, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si vous considérez trois chapitres dans la première aux Corinthiens, je vous livre ça, vous pourrez regarder cela. 1 Corinthiens 12, 13 et 14. C'est curieux, le chapitre 12 nous parle des dons spirituels. Donc de cet équipement qui fait partie de la force du chrétien, de cette force-là. Et puis le chapitre 13, qui est au centre, comme dans l'exhortation de Paul à Timothée, c'est l'amour. Et puis le chapitre 14 nous parle finalement de sagesse, que tout se fasse en bon ordre quand il est question du don de prophétie et du don du parler en langue. C'est curieux. C'est le même auteur, c'est Paul, et c'est inspiré par le Saint-Esprit qui dit ces choses. Les mots ne sont pas dans n'importe quel ordre. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Quel équilibre. Alors ce matin, nous regarderons dans un premier temps comment dans l'Ancien Testament, ce temps particulier de la Pentecôte a été figuré, annoncé, expérimenté d'une certaine manière. Et puis, dans un deuxième temps, nous lirons, et je voudrais que nous centrions notre regard un peu sur le récit de la Pentecôte, nous le lirons dans Acte 2, mais je m'attacherai spécifiquement au discours de Pierre. Je vous donnerai le contexte, mais ce discours de Pierre. Parce que je voudrais qu'on regarde un peu la Pentecôte à travers Pierre. Qu'est-ce que ce serviteur de Dieu me fascine, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais me touche, quoi. Alors, nous allons regarder déjà dans les fêtes de l'Éternel, dans Lévitique 23. Je voudrais souligner aussi que la Pentecôte, vous savez, ça veut dire 50, hein. La Pentecôte, par ce lien temporel, elle est nécessairement en lien avec la fête de la Pâque. La Pentecôte est positionnée par rapport à la Pâque. Il y a la Pâque, et 50 jours après, la Pentecôte. Hein. C'est très important. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit sans l'œuvre à la croix. C'est très important. Lévitique 23. Nous allons lire quelques versets. Les versets, donc c'est le chapitre qui traite des fêtes de l'Éternel. Lévitique 23, verset, je vais prendre le verset 4, je vais sauter quelques versets, je ne vais pas tout lire. Hein. On va lire 4 à 6. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. » Un peu plus loin, verset 10. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. » C'est ce que c'est qu'une gerbe, hein. On prend des épis, on les fauche et on les rassemble avec un lien, d'ailleurs fait souvent d'une tige de l'épi. Hein. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et puis les versets 14 à 17, vous ne mangerez, il s'agit toujours de la Pâque, ni pain, ni épis rôtis ou broyés. Jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, soit 49 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des gerbes, non, 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Vous noterez qu'à la Pâque, pour la Pâque, c'est du pain sans levain. Et des textes bibliques nous montrent qu'il s'agit ici, à la Pâque, le levain de la méchanceté, ça a été dit dans une prière, est ôté. Le pain est sans levain. Par le sacrifice à la croix, le levain, la méchanceté, les pensées mauvaises, je crois que Sophia l'a dit dans sa prière tout à l'heure, en présentant la Sainte Cène, les mauvaises pensées, les choses, sont ôtées. Voilà le mauvais levain qui est ôté, et cela s'est accompli à la Pâque. Il nous est parlé d'une gerbe d'épis qui ont été coupées. Des épis qui ont été coupés nous parlent de séparation, de mise à part. Ils sont aussi arrachés à la terre, on pourrait dire. Notez qu'ils n'ont pas encore été broyés et rôtis, ce qui sera nécessaire pour en faire du pain qui pourra nourrir une multitude. Nous chantons, nous avons chanté, embrase-moi, brûle, Esprit Saint, brûle. Réfléchissons bien à ces paroles. Une chose, les épis sont coupés, ôtés du monde. Ils sont liés, mais ils sont encore chacun un épi. À la Pentecôte, il y a une offrande nouvelle. Les grains ont été broyés, certains grillés, et ils sont devenus pain. Et moi, je suis où dans le pain? Si le grain de blé ne meurt. D'abord des blés moissonnés, coupés de la terre, reliés ensemble et entrant dans une nouvelle destinée, unis, parfois broyés, pour devenir eux-mêmes nourriture. Je suis le vrai pain descendu du ciel, va dire Jésus, et je risque une interprétation. En tout cas, quelque chose m'est venu. Vous savez, quand Jésus va dire à ses disciples qui sont là devant cette foule, « Donnez-leur vous-même à manger. » Jusqu'à présent, j'avais compris, « Débrouillez-vous, faites avec ce qui, le peu qu'il y a. » Et si Jésus voulait suggérer, « Donnez-leur vous-même. » Vous allez être fait nourriture pour d'autres. Aïe, aïe, aïe. Peut-être. On peut penser cela. Je crois en tout cas que à la Pentecôte, on le verra, il y a cette unité, il y a ce rapprochement encore. Ça, c'est la description de la Pentecôte dans le Lévitique. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est un premier pas. Un autre temps que je voudrais qu'on lise ensemble, ça concerne la dédicace du temple qui nous parle là de l'Esprit-Saint qui remplit le lieu. Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je pense que ça peut nous parler. Nous ne lirons pas tout ce merveilleux passage. J'aime beaucoup, 1 Roi 8. Nous prendrons quelques versets. Je rappelle, donc c'est la dédicace du temple qui se situe donc après avoir eu la tente au désert sur un peuple qui est au désert précisément, vous le savez, pourquoi on est au désert, c'est pour connaître ce qui est dans notre cœur. Et maintenant, Dieu va venir, on peut dire, à son lieu de repos. Il va, entre guillemets, se sédentariser, en tout cas, pour montrer une stabilité, un établissement de Dieu au milieu de son peuple, cette fois-ci dans le temple. Même si Salomon va dire, mais Dieu habiterait-il vraiment dans une demeure construite par des hommes? En tout cas, il manifeste qu'il veut vraiment habiter et être présent au milieu de nous. 1 Roi 8, les versets, je vais prendre le verset 6, puis 9, je vais, bon, allez-y si vous voulez, mais je vais sauter quelques versets. Hein. Non pas qu'il gêne le discours, mais c'est pour limiter le temps. Au verset 6, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint. Vous savez que l'arche, on va le lire un peu après, contenait les tables de la loi. Il nous est dit là que l'arche qui contient les tables vont être placées au cœur du cœur du cœur, sous les ailes des chérubins. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre, que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Mais quoi ? Au verset 27, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie, toutefois éternel, c'est Salomon qui parle, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, écoute le cri et à la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Je veux souligner à travers ce passage, qui est très long, qui est merveilleux. Vous savez, c'est ce passage où il dit « Quand ton peuple se sera éloigné, parce qu'il se sera éloigné de toi, s'il crie vers toi, exauce et pardonne, exauce et pardonne, exauce et pardonne. » Je veux souligner là que l'effusion du Saint-Esprit qu'il y a eu sur ce temple amène Salomon à supplier le pardon. Et nous allons retrouver exactement la même chose dans le discours de Pierre. Le discours de Pierre va aboutir que les gens qui l'écoutent vont dire « Que pouvons-nous faire ?» Il va leur dire « Repentez-vous. » La présence du Saint-Esprit nous pousse, la bonté de Dieu manifestée par le Saint-Esprit pousse à la demande de pardon. C'est extraordinaire. Relisez vraiment ce texte, je ne voulais pas allonger, mais il est merveilleux. Nous trouvons ce parallèle. La présence du Saint-Esprit que nous souhaitons tant amène la libération par la compréhension de l'amour et la demande des pardons auxquels nous sommes nécessairement conduits, parce qu'il va de plus en plus loin, il va au cœur du cœur, dans l'arche où est écrite cette fois-ci la loi, non pas avec des pierres, mais par le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, encore un passage prophétique, Ézéchiel 36, les versets 25 à 28, « Je répandrai », là nous avons vraiment le passage prophétique qui annonce ce que Dieu va faire, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, pain sans levain de la méchanceté, je vous donnerai un cœur nouveau, une offrande nouvelle, nous retrouvons de la pensée de la Pentecôte dans Lévitique 23, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, j'enlèverai les tables de pierre au cœur du temple de pierre, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois, non pas par l'application extérieure des tables de la loi, mais parce que j'aurai changé le cœur du cœur. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et nous y voilà, et je serai votre Dieu. Vous me serez soumis d'une soumission de cœur, parce que vous aurez compris mon amour. Je pourrais m'arrêter là, sur la Pentecôte. Mais je vais continuer. Et ce matin, nous allons lire, bien sûr, maintenant, le récit de la Pentecôte. Mais, donc, vous connaissez ce récit qui se situe effectivement 50 jours après la Pâque, après la dernière Pâque. Mort et résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui parle pendant 40 jours du royaume de Dieu à ses disciples, l'ascension, et on dit, demeurez là, conformément à toutes ses promesses, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et on va en parler. Ils sont donc réunis, ils sont 120, tout d'un coup, flamme de feu qui se dépose sur les têtes, il y a comme un vent violent, etc., un vent puissant. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et, chose importante, tous ceux qui sont présents là, venant de toute région, entendent ces hommes tout simples parler dans leur propre langue. Et certains se disent, mais ça ne va pas, ils sont ivres. Alors, nous avons là le récit, et je vais vraiment me concentrer là-dessus, sur le discours de Pierre que nous prenons dans Acte 2, à partir du verset 12, tiens. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci, hein, tout ce que je vous ai décrit avant. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Fin de la citation. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Je m'arrête là, vous connaissez la suite, les fruits merveilleux de ce temps, de ce jour de la Pentecôte, et des jours qui suivront, qui seront aussi féconds dans les âmes qui se donnent à Dieu. À travers ce texte, d'abord, je sais pas, j'ai attention à le lire, c'est une démonstration. Voilà Pierre, un homme pêcheur de métier et pêcheur par nature, qui n'a pas fait l'école rabbinique, ce n'est pas Paul. Et là on voit déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Comment, excusez-moi l'expression, mais il jongle avec les textes de l'Ancien Testament, leur donnant signification, avec autorité, avec des démonstrations, expliquant que mon corps ne verra pas la corruption, ça ne concerne pas David, parce que David est mort. Une démonstration, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas n'importe quoi, c'est parfaitement construit, c'est solide, mais d'une solidité de Dieu. C'est clair et net que ce n'est pas la formation théologique de Pierre qui lui permet de tenir ce discours. Je crois que si on pourrait y passer plus de temps que je vais le faire ce matin, mais c'est évident. Il y a vraiment quelque chose et une assurance sur laquelle je reviendrai. La Pentecôte, c'est la manifestation souveraine. Souveraine. C'est pas nous qui décidons. Souveraine de Dieu agissant par la personne du Saint-Esprit. Une manifestation souveraine n'est pas une manifestation aléatoire, c'est la manifestation de celui qui a autorité et qui sait le temps pour chaque chose. La Pentecôte n'a pas eu lieu avant la croix. Dieu sait ce qu'il fait. C'est l'accomplissement aussi de choses qui ont été donnés bien avant dans l'Ancien Testament. J'en ai donné quelques passages, mais aussi Jésus nous a parlé du Saint-Esprit comme consolateur, celui qui conduit dans toute la vérité, qui ne parle pas de lui-même, mais rappelle tout ce que moi, Jésus, j'ai dit. Ce Jésus, tel qu'il nous est annoncé dans Ésaïe 11, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas autonome par rapport au Fils et par rapport au Père. Ils sont un, chacun agissant à son temps, sur les instructions du Père, le Fils obéissant au Père, le Saint-Esprit rappelant ce que le Fils a dit, ce que le Fils est. Il est la vérité. Tous sont remplis du Saint-Esprit et chacun comprend dans sa propre langue. Dieu veut annoncer la vérité à tous les hommes. C'est ce que Jésus a annoncé dans Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je voudrais à cette occasion souligner la différence. Faire parler des hommes en différentes langues pour que les autres comprennent, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel ? J'allais dire, il en a fait d'autres. Je voudrais vous rappeler quand même que l'annonce de la loi dans Exode 19 et 20, c'est là Dieu qui parle en direct à son peuple de manière audible à plus de 2 millions de personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal non plus. Quelque chose a changé néanmoins. Lorsque Dieu annonce les 10 commandements à son peuple d'une manière audible, il le fait en direct et il dit à Moïse qu'il ne s'approche pas du pied de la montagne. Je suis un feu dévorant. Maintenant, en ce jour de Pentecôte, Dieu va parler, après avoir parlé à son peuple, il va parler à tous les peuples. Vous avez fait mourir l'homme sans péché venu pour vous sauver, mais Dieu l'a ressuscité, et non seulement cela, mais il lui a donné toute autorité. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ces paroles, cette fois-ci, le peuple peut s'approcher, peut les entendre et être touché au cœur. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est toujours Dieu qui parle, tantôt d'une manière directe, tantôt par des hommes animés par le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est donc l'annonce universelle du salut à tous les hommes par le Saint-Esprit, car Jésus, lorsqu'il était sur la terre, avait librement choisi des limitations humaines. Il ne pouvait être présent qu'à un endroit, par le Saint-Esprit. Le caractère de la divinité est manifesté et ainsi il est répandu sur l'humanité tout entière. Et lorsqu'un cœur s'ouvre et accepte la vérité, le Saint-Esprit peut se répandre, convaincre de péché et transformer la vie. La Pentecôte, c'est aussi la révélation de l'œuvre de Christ, le voile déchiré, la compréhension qui vient et le cœur qui est vivement touché. Vivement touché. Une affaire de cœur. La révélation, c'est une affaire de cœur. Ça se passe dans le cœur, dans le sein du saint, du cœur de l'homme. J'étais dans l'ignorance et maintenant je saisis la réalité. Et ça provoque quelque chose. Que ferons-nous ? La première réaction, c'est pas « je sais maintenant », c'est « que ferons-nous ? On passe tout de suite à la suite. Je réalise. Que ferons-nous ? » Que nous trouverons plus tard chez Paul. « Qui es-tu ? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et aussitôt après, « que veux-tu que je fasse ?» La Pentecôte, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité qui bouleverse les cœurs et les amène à la repentance. C'est la révélation de Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Mais ces paroles prononcées par Jésus et entendues de ses disciples alors, entendues de leurs oreilles, n'ont pas alors été révélées vraiment à leur cœur. Ils n'en ont pas saisi la portée. Maintenant, cela se produit. Le levain de la méchanceté et la puissance de la chair empêchaient même ses plus proches de saisir pleinement ce qu'est l'amour de Dieu. Sinon, ils ne l'auraient pas abandonné. Vous êtes bien d'accord? C'est là la puissance du Saint-Esprit. Une révélation de l'amour de Dieu à travers la vérité concernant le plan du salut, sa nécessité pour chacun, qui nous conduit à nous repentir, à entrer dans une vie nouvelle, où le levain de la méchanceté a disparu et où la compréhension de cet amour de Dieu nous donne la force, l'amour à notre tour pour les hommes et la sagesse et l'intelligence renouvelée. L'amour est premier dans cette affaire. C'est quand éclate l'amour de Dieu dans nos cœurs que nous comprenons tout. Mais c'est ça la merveille de la repentance. Et cela ne se produit pas qu'une fois, comme l'effusion du Saint-Esprit ne se produit pas qu'une fois. Nous avons raison de soupirer après. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, maintenant que nous avons expérimenté, nous savons le chemin pour retrouver. Il faut revenir à la croix, revenir dans ce processus. Revenir à la croix parce que le Seigneur, il approfondit dans nos cœurs. Et il nous redonnera, et il nous revisitera, et il nous remplira. Et je prie vraiment qu'il le fasse. Mais maintenant, pour beaucoup, il n'est plus question du baptême, de cette plongée initiale. Il est question de marcher, de s'approcher. Parce qu'il va aller de plus en plus en profondeur. Dans ce sens, la Pentecôte est la fête des prémices. L'aspiration de l'homme à retrouver son Créateur dont il est séparé depuis la chute trouve à la Pentecôte une formidable avancée. Ce n'est pas l'accomplissement, puisque cela se fera à la fin, quand Dieu sera tout en tous, mais c'est déjà Christ en nous. Nous avons déjà les arts de l'Esprit. Et les arts de l'Esprit, c'est la promesse de la totalité. Nous sommes scellés du sceau de l'Esprit et nous sommes déjà équipés pour manifester l'amour de Dieu. Et Paul nous invite non pas à une expérience unique, mais à être remplis en permanence du Saint-Esprit. Éphésiens 15, 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et ça conduit à la méchanceté. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. La gerbe a été coupée et le Saint-Esprit fait un harmonieux mélange et un pain. L'Église, c'est un pain. Le pain que Dieu veut donner à ceux qui ne connaissent pas. Et le Saint-Esprit fait ce travail que nous ne pouvons pas faire. Je disais dans une méditation qui s'appelle « Le Seigneur est proche », justement, cette comparaison de voir l'Église comme une roue avec, vous savez, des rayons, ces roues de chariot qu'il y avait autrefois, que faisaient les charrons, qui mélangeaient bois et fer. Et en fait, Christ est le centre. Et nous sommes les rayons. Et plus nous approchons de Christ, ça fait un travail dans nos cœurs. Et vous savez, plus on s'approche de Christ, plus on s'approche des frères et sœurs. Et plus on veut s'approcher des frères et sœurs, il n'y a qu'une solution, c'est de s'approcher de Christ. Et là se passe tout un travail. Nous devenons pain de vie. Je rappelle que le pain de vie, il est destiné à être mangé, à nourrir. Mais c'est plus Yves, Géraldine, Vincent. C'est tout ça, ça a fait du pain. C'est un morceau de pain et c'est recoupé en tranches des fois pour manger. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On en est incapable, vous êtes tous d'accord ? On est incapable. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La gerbe de blé à la Pâque, les pains à la Pentecôte. Alors Pierre, c'est un exemple de cette transformation par l'amour et la vérité. Je voudrais qu'on regarde, pas un peu parler du message de la Pentecôte, je voudrais qu'on regarde les effets de cette venue, de cette effusion de l'Esprit sur le messager que Dieu a choisi pour cette Pentecôte, Pierre. J'aime à rappeler que le jour de la Pentecôte, nous sommes exactement 53 jours après le triple reniement de Pierre. 53 jours, à peine 2 mois. Je ne sais pas si certains ont vécu des échecs cuisants dans leur vie. Bon, il y a des trucs, ça met un petit peu plus de 2 mois pour être digéré, non ? Je rappelle, triple reniement, reniement avec imprécation et serment. Non, je ne connais pas cet homme. 53 jours après Pierre qui sort de la cour et pleure amèrement, 40 jours environ après que Jésus ait revu Pierre pour le relever et lui permettre de prononcer ces mots. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il ne sait plus où il en est, Pierre. Mais il ose, et ça, c'est merveilleux. Et c'est là qu'il est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Qui peut dire, il ne sait plus rien de ce qu'il est. Il ne sait plus rien, il a tout échoué, quand même. Là, je crois, est une clé. Un pécheur qui a compris combien il était pécheur et perdu et qui a saisi ce qu'est l'amour de Christ et ce qu'est le pardon de Dieu, qui enfouit les péchés au fond de la mer et ne s'en souvient plus et qui peut dire à son sauveur, « Tu sais que je t'aime. » Nous ne nous comprenons pas toujours nous-mêmes, mais Dieu, lui, nous connaît, il regarde au cœur. Et Jean va dire, et même si notre cœur nous condamne, ça m'arrive moi de temps en temps, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est cela qui va permettre à Pierre de prononcer ce discours, qui va lui donner l'autorité et l'assurance pour s'adresser à ses compatriotes, n'oubliez pas. Lui, le pécheur qui était aussi pécheur, en leur disant, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Non mais, vous réalisez, 53 jours à pied, ça s'est su quand même que Pierre a renié son maître. Eh bien, il se retrouve, j'allais dire, devant les mêmes, et il leur dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Si c'est par la chair, je peux vous dire qu'il y en a un qui se lève dans l'assemblée et qui dit, mignon, t'es qui, toi ? Non. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit. On ne trompe pas le Saint-Esprit. Pierre sait où il en est. Il n'accuse pas, il ne se met pas au-dessus. Il sait. Il sait. Alors il peut parler comme ça. Il n'y a aucun levain de la méchanceté là-dedans. Oui, Pierre peut prononcer ses paroles sans accusation. Il renouvellera ce discours quelque temps après en insistant et précisant. Dans Acte 3, je vais vous lire ce passage, dans Acte 3, verset 12. Vous savez, c'est après que le paralytique a été guéri. Pierre, voyant cela, les gens s'étonnent de ce qui se passe, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Ça va plus loin, là. Il dit, c'est vous qui l'avez livré, alors qu'un païen, l'occupant, lui, ne voulait pas. Vous avez renié le saint et le juste. Non, attendez, Pierre qui dit ça. Pierre qui dit à ses compatriotes, vous avez renié le saint, le juste. C'est lui qui a renié. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, écoutez bien, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Là, il y a l'amour. Pierre, il a reçu un amour. Je sais parce que moi, j'étais dans le même cas. Je sais parce que j'étais dans le même cas. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc. Et là, c'est pas dur, sa parole. Repentez-vous donc, revenez et convertissez-vous. Changez de mentalité. Abandonnez vos trucs qui coincent, vos trucs religieux, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le miracle de la Pentecôte pour Pierre, et je le crois ses compagnons, c'est ceci. Les circonstances extérieures n'ont pas changé. Son pédigré, excusez-moi l'expression, n'a pas changé. Son passé, il est son passé. L'environnement est exactement le même qu'il y a 53 jours. Les religieux sont toujours les religieux et ne digèrent toujours pas ce qui s'est passé, même après la résurrection de Christ. L'envahisseur romain est toujours présent et pas mieux disposé à l'égard de cette nouvelle secte, comme ils disent, qui suivent Jésus-Christ. L'esclavage, le fouet, la crucifixion sont toujours effectives. Mais le regard de Pierre et de ses compagnons n'est plus le même. La peur, la crainte ont été balayées et remplacées, non par un esprit supérieur et dominateur, mais par une autorité basée sur l'assurance d'être aimé de Dieu, d'avoir reçu la vérité sur qui est Dieu, qui est l'homme et quelle est la relation voulue par Dieu. Voilà ce qui a changé. Voilà ce qui fait que Pierre peut se présenter et faire ce discours. Et voilà ce qui fait qu'il peut citer l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pierre, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. En conclusion, la Pentecôte, c'est une âme vivante, visitée par un esprit vivifiant. C'est une âme vivante, c'est pas de moi, c'est l'Écriture. C'est une vie, une relation avec Christ abondante, car le bon berger a donné sa vie pour que nous ayons sa vie de résurrection en abondance. Et la puissance, souvent associée à la Pentecôte, n'est pas une puissance dont on pourrait se saisir comme des magiciens qui la veulent pour eux et pour leur propre gloire, mais la puissance d'une vie de résurrection que le souvenir de la culpabilité liée au péché n'entrave plus. Une vie de résurrection qui n'est plus polluée par le soupçon du mal et par l'intrigue. Je vais m'arrêter là ce matin, mais je voudrais, si l'équipe de louanges y reprendre ce chant au moins, que l'esprit de vérité. Et je voudrais que ce matin, oui, faire un appel. Peut-être de personnes qui se sont écrasées par leur chute. Des personnes pour qui ce qui s'est passé pour Pierre. Pour l'instant, ils n'osent plus regarder Jésus. Peut-être ils n'osent plus. Et aussi pour d'autres qui ont connu cette effusion de l'esprit et qui ne l'ont plus connu depuis longtemps, qui soupirent après une visitation du Saint-Esprit. Et là, il y a des bagarres, parce qu'ils se disent, mais est-ce que je suis revenu en arrière? Est-ce que j'ai démérité? Est-ce qu'on peut mettre le mérite de côté, frères et sœurs? Qui ne savent plus s'ils peuvent dire « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Je voudrais simplement, ce matin, c'est très simple. Si quelques-uns ont envie de dire, pouvoir dire à nouveau « Seigneur Jésus, tu sais, ils ne savent plus trop. » Mais dire « Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » C'est peut-être de l'amour filial, eh bien, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va faire, va refaire cette communion avec notre Sauveur. On va prendre ce chant. Si quelques-uns sont touchés, la Pentecôte, elle est pour tous. Ce remplissage de l'amour de Dieu. Pierre, il peut le faire pour tous les Pierres et tous les autres.